Pluriel gay. Pluriel, 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 gay. L'émission.
Eh bien bonsoir à tous et à toutes. Ce qui est formidable, c'est que nous découvrons actuellement notre nouveau matériel, notre nouvelle console flambant neuf, puisque les ondes de Radio Pluriel sont passées sur le numérique désormais.
Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Voilà, d'où le petit...
Et il y a eu quelques petites manœuvres difficiles.
Voilà, déjà la semaine dernière, je suis venu pour tester en direct à la console. Alors, je dis pas la catastrophe que ça a été, mais bon, ça va se mettre en place petit à petit. Donc ce soir, alors merci d'être là ce soir Bernard, on a entendu ta voix. Et je vais saluer aussi notre invité, donc il y a un représentant d'une association qui s'appelle donc Devenir un en Christ. Qui s'appelle donc Marc Nuno Fernandes.
Tout à fait, oui.
Qui est d'origine portugaise, donc.
D'origine portugaise.
Voilà, parce qu'il y a un S à Fernandes et pas un Z.
Absolument, un voilà. Z, c'est espagnol.
Voilà. Alors, donc, bah, merci d'être là, en tout cas. Vous ai demandé de venir parce que nous avons déjà eu l'occasion ici à la radio sur Pluriel Gay d'évoquer et de parler de religion et d'homosexualité à différentes occasions. Et il se trouve que Devenir un en Christ, c'est une association homosexuelle chrétienne, oui. Que je n'avais jamais invitée jusque-là et qui pourtant est une association nationale dont vous êtes le représentant à Lyon.
Voilà, je suis le responsable lyonnais et j'ai aussi eu des responsabilités au niveau national puisque je faisais partie du conseil d'administration.
Donc... Devenir un en Christ. Je vais poser les jalons très rapidement, peut-être un peu brièvement, donc vous pourrez nuancer mon propos, évidemment. On va essayer, si vous êtes là, c'est essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette association pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas. Donc j'ai vu, parce que je me suis un petit peu renseigné quand même, une association qui a été créée, donc nationale, qui a été créée en 1986, et dont la mission assignée est celle de, on va dire, un accueil chrétien pour des personnes homosexuelles et les proches de personnes homosexuelles.
Tout à fait.
Voilà, parce que jusque-là, ça va.
Oui.
Bon. Pourquoi justement une telle association? Pourquoi Devenir un en Christ existe-t-elle?
Alors, cette association existe, c'est le désir de certaines personnes hein, qui sont homosexuelles, mais aussi des parents, de trouver un lieu où on puisse parler de son homosexualité et aussi de sa foi. Voilà, c'est de concilier foi et homosexualité.
D'accord, donc ce qui veut dire que des parents qui seraient confrontés à l'homosexualité d'un de leurs proches, quoi, leurs enfants... ou d'un proche, peuvent contacter l'association. Alors, on suppose que, évidemment, les personnes qui vont vous contacter sont des personnes qui sont tout à fait inscrites dans un mouvement aussi, comment dire, de foi, de croyance, voire de pratiques religieuses aussi, à l'église, etc., etc. Oui. Et évidemment, on imagine, on suppose que pour les personnes, c'est difficile, quoi, de concilier, justement, la foi, les enseignements de l'église... la position de l'Église aussi, et puis l'homosexualité.
Oui, alors, c'est vrai que... Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est pour... donc que DEHEC accueille des personnes directement concernées par l'homosexualité, dans leur diversité, hein, parce que là, c'est une radio plurielle, mais on accueille des personnes qui ont été mariées, qui ont des enfants. On accueille aussi, depuis un certain temps, des personnes transgenres. Alors c'est vrai que ce sont des personnes qui ont du mal à concilier donc je dirais leur foi et leur homosexualité, mais justement ce que propose DEHEC, c'est vraiment de pouvoir déjà le dire, de pouvoir échanger sur cette difficulté. Alors je dirais pas le problème vient pas de le fait d'être chrétien, puisque bon l'enseignement du Christ à la limite tout le monde s'y retrouve. La difficulté c'est souvent par rapport au discours de l'Église, et je dirais que ce discours, heureusement, il a changé, et notre pape actuel, en disant « qui suis-je pour juger une personne homosexuelle ?», voilà, a vraiment permis à des personnes de ne plus vivre dans la culpabilité. Par contre, pour les parents, leur difficulté, c'est effectivement d'apprendre l'homosexualité de leur enfant. Alors, ce qui est difficile pour eux, c'est de trouver un lieu pour pouvoir en parler avec d'autres parents. Et en fin de compte, il y a très peu de lieux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Contact, mais qui est laïque. Mais les parents aussi...
C'est très difficile d'en parler dans la paroisse, par exemple.
Voilà, c'est difficile d'en parler dans la paroisse, tout à fait, oui.
Ne serait-ce qu'aux prêtres.
Alors, on peut se confier aux prêtres, mais ce n'est pas suffisant, parce que les parents nous disent souvent, pour eux, la difficulté, c'est, bon, bien sûr, le fait que leur enfant est homosexuel, c'est aussi... ils culpabilisent par rapport à leur propre éducation. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant homosexuel ? Et après, c'est la difficulté de pouvoir le dire à leur famille, à leur environnement, et aussi de pouvoir en parler dans leur paroisse, si ces personnes sont engagées au niveau paroissial. Quoi.
Oui, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a aussi l'aspect, dans la religion catholique, dans le dogme catholique, on va dire, il y a toujours une notion d'opprobre, un petit peu, qui existe depuis des siècles par rapport donc, à ce style de vie. Hein. Donc on imagine que les parents... ne s'attendent pas certainement déjà à ce que n'ont même pas pensé, ça leur tombe dessus comme ça, et ils sont complètement désemparés dans leur fonctionnement, quoi. Même par rapport à la religion, ils ne peuvent pas trouver un secours dans la religion immédiatement, quoi.
Oui.
Ne serait-ce que la condamnation qu'ils ont toujours ressentie, plus ou moins les anathèmes qui existent depuis des siècles.
Alors c'est vrai qu'ils sont aussi prisonniers de préjugés. Hein. Bon, pour eux, une personne homosexuelle est une personne bon, je vais le dire entre parenthèses, de perverse, voilà. Et pour eux, le fait de découvrir l'association, de découvrir des personnes homosexuelles qui vivent bien leur foi et leur homosexualité, bon, pour eux, c'est plein d'espérance. Mmh. Voilà, pour eux, c'est important, ça leur permet d'avoir une autre représentation, une autre image des personnes homosexuelles.
Oui, alors je dirais que dans le cadre de cet aspect... perversité, il faut quand même la perversion. L'homosexualité est une perversion. Il faut quand même admettre aussi qu'il n'y a pas que l'Église qui a jeté un tel anathème. Hein. On n'est pas là pour faire le procès du monde catholique non plus. Mais c'est vrai que la religion a fait partie, du moins la religion catholique et d'autres font partie de cette conception. Hein.
Oui.
Unie avec le monde médical à une époque, avec la psychanalyse, la psychiatrie, etc. Ça fait une union sacrée, c'est le cas de le dire, où, en définitive, l'homosexuel était présenté comme un pervers.
Mais c'est vrai que vous avez raison de dire que la société a évolué. Il n'y a pas très longtemps, on considérait l'homosexualité comme une maladie mentale. Hein. Donc, l'évolution s'est faite et se fait encore dans la société. Elle se fait, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans l'Église.
Et c'est plus long.
C'est plus long, et pourtant... quand on avait fait intervenir une théologienne, une bibliste, justement ce que dit la Bible sur l'homosexualité, il y a très peu de choses. En fin de compte, c'est plutôt l'institution qui a... Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont liées à la culture de l'époque, hein. Mais l'acceptation de l'homosexualité, bon, elle se fait dans nos sociétés. Bon, ça va très lentement, hein. Moi, j'aime bien une expression de... Je crois que c'est un humoriste qui disait... Quand un intellectuel est homosexuel, on dit qu'il est gay. Quand il est boucher ou charcutier, on dit qu'il est pédé. Et ça, c'est encore ancré dans les mentalités aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on considère... c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile, quand on est une profession libérale, quand on est bien inséré dans la société, de pouvoir dire qu'on est homosexuel. Bon, par contre, une personne qui vit dans un milieu défavorisé. Moi, je pense aussi à des personnes qui vivent dans des banlieues où c'est difficile d'exprimer, de pouvoir dire qu'on est homosexuel. Voilà, donc, le lien, il est en même temps, il y a le lien avec l'Église, mais il y a aussi le lien avec la société. Hein. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour changer justement le regard sur les personnes homosexuelles.
Et la façon aussi dont, y compris dans un passé plus ou moins récent, on peut traiter justement de l'homosexualité des personnes en fonction de leur catégorie sociale. C'était vrai pour l'ancien régime, par exemple. Je remonte un petit peu loin, là, mais on se rappelle que à une époque où l'Église catholique était quand même influente, on sait que, par exemple, il valait mieux être le frère du roi Louis XIV, par exemple, pour ne citer que lui, être homosexuel, on ne risquait pas d'encourir le bûcher, alors que si on était l'émanation du peuple, qu'on subissait le bûcher, et qui était donc, c'est un tribunal religieux qui jugeait et qui brûlait la personne. Il y a eu des bûchers, les fameux bûchers de Sodome.
Mais je crois que là.
Voilà, il y a encore une. Là, c'est une question de classe sociale, finalement.
Oui, et puis c'était une question de société, parce que la société, quand on disait les sodomites, on les tuait, par exemple. Enfin, il y avait toute une. Il y avait des actes qui étaient commis. Enfin, je pense que c'était vraiment la société qui refusait. Pour eux, c'était une aberration de la nature.
Voilà. Mais il est vrai qu'il fallait être bien né. Louis XIV n'a jamais traité son frère de sodomite. Il a dit il a des mœurs un peu spéciales que je réprouve. Mais voilà, quoi.
Bien sûr. Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui. Ces personnes qui sont libres par rapport à leur homosexualité ont fait avancer la cause.
Oui, voilà. Bien sûr. Alors, pour revenir encore une fois à l'Église catholique, on va revenir à elle, on va revenir au pape François, parce que vous l'avez évoqué. Alors, c'est vrai que le pape François, le pape actuel, est présenté par rapport à tous ses prédécesseurs comme un progressiste dans beaucoup de domaines.
Oui. Hein.
Et effectivement, les positions sur l'homosexualité semblent un petit peu plus ouvertes, je dirais. Vous avez évoqué déjà l'aspect « qui suis-je pour juger ?». Enfin, c'est lui qui l'a dit lors d'une interview, effectivement. Alors, on sait que la condamnation religieuse, pour venir du christianisme, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de textes condamnant l'homosexualité, mais ils sont là quand même, dans les livres. Dans la Bible, on a le fameux Lévitique, le passage du Lévitique, qui est aussi... C'est une loi religieuse, en fait, Lévitique. Il y a... Ensuite, c'est vrai que... ça, je l'ai évoqué avec l'association David et Jonathan, on en a parlé. Il est intéressant de noter que dans les écrits, dans les quatre évangiles, il n'y a aucune mention de l'homosexualité.
Tout à fait. Le Christ n'a jamais parlé de l'homosexualité.
Ce qu'il faut attendre après le Christ, donc, après sa venue sur Terre, sa résurrection, pour ceux qui sont croyants, pour voir, entendre ou lire, en tout cas, saint Paul jeter des anathèmes dans certains épîtres, fameux épîtres de saint Paul, sur l'homosexualité. Mais c'est sur quand même ces bases-là que ensuite les théologiens ont... et les théologiens chrétiens ont développé leur argumentation contre l'homosexualité, sachant que l'Église n'a jamais été très très sexe, on dira. Hein, le sexe, à la base, à l'Église, c'est on fait du sexe pour faire des enfants dans un cadre bien défini. Le reste, c'est pas bon.
Alors c'est vrai que la notion de plaisir dans l'acte d'amour, bon, c'est quelque chose de nouveau. On commence à en parler, mais c'est vrai qu'à avant, un couple hétérosexuel qui avait des relations, effectivement, c'était toujours en vue de la procréation. Mais je dirais que l'Église, elle est aussi inscrite dans un contexte social et culturel. Voilà. Et à l'époque, les responsables d'Église étaient aussi des politiciens. Voilà, c'était des gens, en fin de compte, qui avaient tout le pouvoir. Mais effectivement, il y a une interprétation qui s'est faite par des hommes, puisque les théologiens, les biblistes, les gens qui ont relu, voilà, c'était des hommes qui avaient telle ou telle orientation. Mais voilà. Mais aujourd'hui, je dirais l'Église, elle n'est pas encore ouverte totalement. Mais il y a quand même un accueil. Je vois sur Lyon, juste pour vous donner un exemple, on est accueilli au sanctuaire Saint-Bonaventure.
C'est l'église qui se trouve au Cordelier,
c'est l'église qui se trouve au Cordelier, qui est une église assez populaire, et on est accueilli par le recteur et toute l'équipe. Et là, je dirais sans problème. Vraiment, quand on a demandé s'il était possible d'accueillir un groupe d'homosexuels chrétiens, alors c'est vrai, quand on dit chrétien, on est plutôt catholique. Mais on est ouvert aussi aux personnes qui sont en recherche, aux personnes protestantes. Mais voilà, mais cet accueil... il s'est fait sans problème. Voilà. On sent quand même... il y a effectivement, je dirais, la curée romaine, qui est quand même assez traditionnaliste, voire, pour certains, intégriste. Mais il y a un discours de l'Église locale. Certains évêques, j'en connais certains, ils se disent il est très important d'accueillir de façon inconditionnelle toute personne, qu'elle soit homosexuelle ou pas.
Alors, Pour revenir au pape François, lui, il semblerait qu'il se démarque un petit peu de, qui représente une évolution en tout cas par rapport au sujet de l'homosexualité, une évolution positive. Néanmoins, l'Église catholique, l'institution catholique a aussi évolué avant lui. Avant, il y a eu des évolutions. Seulement, on a tendance à penser, et moi je le pense un petit peu personnellement encore, qu'il y a le côté compassionnel, c'est-à-dire les pauvres, c'est pas de leur faute, voire ils sont pervers ou ils sont malades, oui. Mais il faut les accueillir parce qu'on accueille tout le monde dans l'Église. Et puis il y avait ce côté, bon, ok, vous avez ce problème, ne pratiquez pas, ne cédez pas à vos pulsions perverses, et vous serez accueillis au sein de l'Église. Est-ce que le pape François, il est allé au-delà de cet aspect compassionnel et on accueille tout le monde, même le pécheur en fait, c'est ça, on accueille aussi le pécheur.
Alors déjà, de se reconnaître pécheur, pour un chrétien, c'est de se reconnaître limité. Voilà, on n'est pas dans la toute-puissance, et je crois qu'on l'est tous plus ou moins. Alors effectivement, ce côté compassionnel dont vous parlez, on le retrouve chez certaines personnes. Mais c'est là où un groupe comme De Vénère en Christ peut dire on peut être homosexuel, heureux, et heureux de vivre, je dirais, une sexualité différente, mais épanouissante. Et donc, là, il y a un long chemin à faire.
Voilà. Donc, et d'avoir sa foi intérieure, mais aussi d'avoir les pratiques extérieures, l'Église, etc., tout en aller à l'Église, communier, etc., tout à fait sereinement.
Oui. Après, vous savez, il y a toujours, en dernier recours, la liberté de conscience. Voilà. Une personne qui est claire avec sa conscience ne va pas culpabiliser parce qu'elle vit une relation avec une personne du même sexe. Voilà, c'est là aussi, je dirais, les choses évoluent aussi. Mais le discours, effectivement, le discours officiel de l'Église, voilà, je pense qu'il faudra encore pas mal de temps, pas mal de témoignages. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes homosexuelles qui prennent des engagements dans l'Église. Voilà, et qui prennent des engagements avec l'adhésion du clergé, hein, avec l'adhésion de l'autorité. Donc ça, ce sont des choses qui évoluent lentement.
Ben, espérons que cette évolution continue. En attendant, on a prévu une petite pause musicale. On va écouter la première pause musicale.
'70s porn, wearing tube socks with style and such an innocent smile. Better pray for your sins. Better pray for your sins. 'Cause the game of Messiah's coming. He will fall from the star, Studio 54, and appear on the set of Fire Island Shore. Better pray. Baptized in come. yourselves. Better pray for yourselves. 'Cause the game of science comes.
Il fait rire le petit Bernardo, il s'en va avec les manettes. Mais c'est bon, on est en ligne, Bernard, t'énerve pas, nous sommes là. Donc, nous sommes toujours là avec Nuno Fernandes. Fernandes, hein, c'est peut-être un peu comme ça qu'il faut prononcer, en portugais. Donc, de l'association Devenir un en Christ. Alors, on parlait un petit peu de l'implication, enfin, de l'implication de l'évolution de l'Église catholique, etc. Donc, c'est une institution qui évolue, mais lentement, à son rythme séculaire, n'est-ce pas? On parlait aussi, on parlait en antenne, on disait effectivement que l'Église peut évoluer peut-être en devenant plus séculière, en fait, en se mettant plus dans la société, peut-être que l'implication des femmes, il y a eu un événement récent, un prêtre du diocèse, je crois, qui s'est marié, voilà. Mais bon, il a dû abandonner voilà, le sacerdoce.
Oui.
Il n'y avait pas le choix, c'est l'un ou l'autre. Donc ça reste encore, voilà, peut-être que si l'Église s'ouvre encore un peu plus, elle sera plus à même de traiter des problèmes qui sont le problème des gens, des problèmes quotidiens, quoi. Y compris de confronter
avec
l'homosexualité.
Oui. C'est-à-dire que l'Église aujourd'hui, hein, que ce soit la curie romaine, en général, donc les responsabilités, sont tenues par des hommes. Et je pense que l'Église évoluera avec le mariage des prêtres, avec une implication plus importante des femmes. Et je pense qu'elle aura peut-être une réalité, une conscience de la réalité peut-être plus concrète que ce qu'elle a actuellement, quoi.
Pour vous, les discours, les propos du pape François sont quand même positifs, vont dans le bon sens.
Oui, parce
que... Ça peut faire évoluer l'Église.
Oui, parce que c'est un prêtre... déjà, il vient d'Amérique du Sud, donc il a une conception de l'Église certainement plus proche des gens, moins doctrinaire. C'est un pasteur, donc c'est quelqu'un qui a une relation... avec les gens. Voilà, une relation qui manque à certains doctrinaires qui sont à Rome dans leur palais épiscopaux. Hein. C'est aussi une réalité d'Amérique latine. Il est de Buenos Aires, donc il a rencontré des personnes homosexuelles. Parce qu'une réalité homosexuelle très importante, et je pense que c'est son expérience. C'est la rencontre avec des personnes homosexuelles qui a peut-être aussi... qui lui a peut-être permis de changer son regard sur les personnes homosexuelles. Et je pense que ce qui est important... C'est quelle que soit la personne qui est en face de soi, c'est de voir une personne. Voilà, c'est de voir une personne avant de voir un homosexuel. Voilà, c'est une personne qui a une affectivité qui lui est particulière, mais c'est avant tout une personne. Et déjà, voilà. Et là, on n'est plus dans la compassion. Là, on est vraiment dans un regard positif sur une personne. Bien sûr, là, cette personne, elle peut, je dirais, avoir des problèmes, mais comme n'importe quelle autre personne, quoi. Déjà. Je pense que c'est son expérience de pasteur qui lui permet de réagir d'une façon différente. Mais voilà, ce qui est important, c'est quand même toujours de voir une personne. Et moi, je dis toujours, hein, même dans une relation homosexuelle, hein, quand on a une relation avec une personne homosexuelle, même si elle est furtive, moi, je dirais, c'est toujours de voir un sujet et pas un objet. Voilà, de voir une personne. Et pas uniquement, une partie génitale, quoi. Enfin, pour...
Oui. Oui. Alors, en ce qui concerne le diocèse de Lyon, les locaux, je dirais, les représentants locaux de l'Église catholique, est-ce que vous avez un dialogue avec les représentants ici? Bon, on va parler de Barbarin parce que c'est le plus connu, mais il y a beaucoup de personnes qui sont sur le diocèse. Est-ce que vous avez des interlocuteurs dans le diocèse?
Oui, on a des. Il y a un groupe qui s'est constitué qui s'appelle En Parler. Oui. Donc dans ce groupe, il y avait des personnes, membres du clergé. Il y avait une femme qui, elle, a des responsabilités au niveau du diocèse. Il y avait un psychanalyste chrétien, il y avait des psychologues. Donc c'était un groupe de réflexion qui s'appelle En Parler, qui existe toujours. Et c'est vraiment un groupe, l'objectif de ce groupe, c'est vraiment d'accueillir la personne homosexuelle. Donc on fait une demande, hein, bien sûr, il y a un numéro de téléphone et une personne qui veut pouvoir partager ce qu'elle vit, ses difficultés, ses joies, et concilier son homosexualité et sa foi. Et ça, c'est valable pour, bien sûr, les personnes directement concernées, mais c'est aussi valable pour des parents qui se posent des questions.
Et le dialogue avec l'épiscopat local, avec le diocèse, avec les paroisses, il se fait aussi. Vous avez évoqué Saint-Bonaventure,
oui.
On est d'accord. Donc déjà, vous êtes accueilli au sein d'une paroisse, déjà. Est-ce que vous avez, donc, comment dire, est-ce que vous avez, des échanges avec l'épiscopat sur ce sujet-là?
Alors, on a des échanges.
Des représentants, voilà.
Oui, on a des échanges, puisqu'il y a quand même des questions qui se posent après le mariage. Il y a quand même des questions qui se sont posées au niveau de l'épiscopat. Il y a des relations qui se font déjà. Alors, ça dépend quel évêque, hein. Mais je sais qu'au niveau de la France, il y a beaucoup d'évêques qui ont rencontré soit David et Jonathan, soit Devenir en Christ. Nous, on a des relations. Et on a même été invité par quelques paroisses donc du diocèse de Lyon pour témoigner, de dire ce qu'est Dueck, de son accueil des personnes homosexuelles et de l'accueil aussi des parents. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui évoluent. Voilà, c'est plus un sujet tabou comme ça l'a été il y a quelques temps, quoi.
Et vous recevez un accueil, je suppose, bienveillant, mais est-ce qu'il n'est pas un petit peu compassionnel, justement ?
Alors, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas avoir un discours théorique, c'est de témoigner.
D'accord.
Voilà. Mmh. Et je pense que quand les personnes ont en face d'elles un témoin, voilà, qui ne va pas être négatif, qui ne va pas dire... voilà. Je pense que ça bouscule les gens.
Oui.
Il y a quand même un changement de mentalité. Hein.
Mmh.
Et moi, j'ai senti, on avait fait une intervention sur Villeurbanne et sur Villefranche. À la fin, les gens étaient vraiment contents.
Mmh.
Voilà. Et on ne voit plus du tout comme... Et alors, on leur faisait passer un petit... on avait fait un petit sondage. Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Et c'est vrai que pour les gens, l'homosexualité, c'était quelque chose de complètement inconnu. Hein. Et le fait de rencontrer une personne, ça change. Voilà.
Oui. Alors, on parle de Barbarin. J'évoquais Barbarin. Vous avez évoqué le mariage également. On va dire... on se souvient qu'il y a quelques années, donc il y a eu les fameux débats concernant l'ouverture de mariage aux couples de même sexe, avec notamment de grandes manifestations pour les opposants aussi, et puis pour ceux qui étaient partisans de la loi. Les opposants ont quand même réuni un certain nombre de personnes au niveau national et aussi au niveau local. À Lyon, il y a aussi des manifestations, de la Manif pour tous. Alors, je me suis un petit peu renseigné pour savoir quelle avait été la position donc, de l'association Devenir un en Christ à l'époque, et vous aviez apparemment, à moins que je me trompe, me semble une certaine neutralité vis-à-vis de ce projet de loi.
Alors effectivement, on a choisi la neutralité, puisqu'au sein de Dueck, il y a des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre. Voilà, il y a des gens qui étaient plutôt favorables à une union comme en Allemagne, ou un pacte s'améliorer. Et nous, pour pas vivre cette division au sein de Dueck, on a préféré de dire, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. On n'a pas donné de consigne.
D'accord.
Voilà. Alors on a été critiqué. Voilà, on a été critiqué par on a été critiqué par l'Église, par une certaine Église. On a été aussi critiqué par tout le mouvement associatif gay, qui nous a dit, en fin de compte, vous ne prenez pas position. Non, mais c'était vraiment par respect des personnes.
D'accord. Alors, à l'époque, pendant les manifestations, on a entendu beaucoup de personnalités qui sont exprimées, y compris donc des personnalités du monde catholique, et Barbarin notamment qui a pris des positions qui étaient quand même un peu dures hein, sur le mariage, en disant ben, pourquoi pas à ce moment-là marier les frères et les sœurs, c'est ouvrir la polygamie, c'est ouvrir l'inceste. Donc pour lui, c'est une forme d'union qui n'est absolument pas tolérable, même dans la norme en fait, dans ce que lui considère comme la norme, parce que l'inceste c'est pas la norme, la polygamie c'est pas la norme, et l'inceste c'est une perversion, la polygamie c'est pas la norme, donc l'homosexualité il mettait tout ensemble quoi.
Oui, mais hein? je pense qu'il a fait une erreur, et je pense que il avait pas sa place dans les manifestations, alors que lui en tant que cardinal il puisse s'exprimer, on est en République hein. Mais je pense que le monde associatif gère ce type de manifestation, mais je pense que ce n'était pas à l'épiscopat de prendre cette position. Mais il y a beaucoup d'évêques qui n'ont pas pris de position, hein, voilà, qui n'ont pas appelé les fidèles à manifester pour ou contre. Hein, voilà.
Inversement, il y a eu aussi, dans certaines paroisses, des prêtres qui ont appelé à aller à la manifestation.
Bien sûr.
Il y a eu des tracts distribués à la sortie des églises.
Oui.
On sait quand même que la Manif pour tous avait une émanation, un socle quand même catholique, traditionnaliste, assez important.
Bien sûr, non, mais ça c'est clair. Et je crois que ça fait beaucoup de mal aux personnes homosexuelles qui fréquentent Dweck. Et ça fait aussi beaucoup de mal aux parents d'enfants homosexuels. Et je pense qu'aujourd'hui, le discours de l'Église, aujourd'hui, après cette expérience, ne serait plus le même. Voilà. L'Église n'a pas à se positionner sur...
Sur une loi qui, au fond, concerne le mariage civil. On demande,
en plus,
on
oui,
demande
oui.
à l'Église d'accueillir les couples homosexuels.
Bien sûr, bien sûr.
Et de les bénir. Voilà.
Bien sûr. Mais je crois que, bon... Il y a eu la position qui a été, votée, donc c'est le mariage pour tous. Voilà. Et en tant que républicain, on doit respecter cette loi. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que l'Église, elle a pris conscience que, voilà, il y a eu un vote. Et maintenant, on doit composer avec.
Oui.
Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a des couples de femmes homosexuelles. Donc, on fait une PMA, qui ont des enfants. Cet enfant, elles veulent le baptiser. Bon, l'Église est obligée de se positionner. Et l'Église, en fin de compte, ne peut pas refuser un baptême. Mmh. Voilà, donc ça, c'est toute une réflexion que mène aujourd'hui l'Église, justement, sur des cas comme ceci.
Alors, c'est vrai aussi que, de façon sous-jacente, même pas sous-jacente, évidente, pour les détracteurs, les opposants au mariage pour tous, c'est le fameux thème toujours qui est avancé, le bien-être des enfants. Et l'Église, enfin les hommes d'Église et les personnes concernées par cette loi, opposées à cette loi qui était dans le cadre donc de la religion, du catholicisme, etc., ont souvent dit en fait les enfants ne sont pas des choses, sont pas des les enfants c'est un papa, une maman, ils défendaient vraiment une position très traditionnelle, je veux dire de la famille, et pour eux c'est surtout ça le mariage, c'est que deux hommes ou deux femmes puissent élever des enfants, et là c'est quelque chose qui leur paraît complètement c'est ça, c'était ce qui est tout sous-jacent.
Oui.
Plus que le mariage, peut-être.
Oui.
À la limite, ils auraient pu se convenir dans le mariage, etc. Le mariage laïque, pas de problème, mais là...
Alors, c'est vrai que, bon, il y a le problème. Enfin, je dirais, c'est vraiment une discussion qui est importante. C'est, ce désir d'enfant dans des couples homosexuels. Bon. Là, c'est effectivement une question importante. Et je pense que ça sera intéressant, je dirais, de débattre sur cet aspect-là. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je me souviens, on était dans un café avec une personne qui est instite et qui me disait, elle travaille sur Vaux-en-Velin, elle me disait que dans sa classe, sur 30 enfants, il y en a 20 qui étaient de famille monoparentale ou de famille recomposée, etc. Voilà. Alors, c'est vrai que ce désir d'enfant, bon, il y a beaucoup de couples qui l'ont. Bon, tous les couples n'ont pas. Après, on peut réfléchir aussi, c'est comment rendre sa vie féconde sans avoir d'enfants. Il y a des couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'en ont pas.
Ou qui ne veulent pas aussi.
Ou qui ne veulent pas, voilà. Mais comment ils peuvent donner du sens à leur vie sans avoir d'enfants. Voilà. Moi, je pense que c'est un débat. Après, que l'Église dise l'enfant, faut qu'il ait toute sa place, faut qu'il soit heureux. Voilà. Bon, c'est le discours parce que je pense qu'il n'y a pas assez non plus de recul par rapport aux enfants qui sont dans des couples homosexuels. Mmh. Surtout, je dirais, des couples homosexuels hommes. Mmh. Parce que chez les femmes, c'est déjà un peu différent. Parce qu'avec la PMA, c'est beaucoup plus facile d'avoir un enfant.
Oui. Alors, c'est vrai qu'après, les personnes qui défendent le mariage ont aussi défendu le fait qu'un enfant pouvait être mieux, plus heureux avec deux parents de même sexe qu'avec des parents peut-être qui ne s'entendent pas, qui sont de sexe différent et puis qui ne s'entendent pas, qui se battent. Bon, hein. On a eu tous les arguments que l'amour, c'était ce qui comptait au fond. C'était pas le sexe des personnes, des parents, mais c'était l'amour. Bon, ça, c'était la défense de ceux qui étaient partisans de la loi, qui est aussi acceptable comme défense.
Mais vous savez, l'enfant, il peut se construire aussi dans un milieu difficile, parce que bon, on a tous une expérience. La vie de famille n'a pas toujours été rose, mais enfin, on arrive quand même à se construire.
Oui.
Voilà, plus ou moins, mais on arrive à se construire.
Alors, donc, en ce qui concerne le mariage, c'est fait. Alors, la condamnation de Christine Boutin, qui a dit l'homosexualité est une abomination, ça vous a fait plaisir?
Non,
non, elle a quand même été condamnée à verser 5 millions.
Bien sûr, mais elle n'a pas à tenir ce type de propos.
Donc ça vous a fait plaisir qu'elle a été condamnée?
Oui, parce que quelque part, elle n'a pas non plus à dire n'importe quoi. Voilà, et puis en plus, moi, j'adhère pas du tout à ses idées. En plus, il y a des moments où, voilà, des gens qui n'arrivent pas à se contrôler, à dire n'importe quoi pour séduire un électorat, il faut faire attention.
Alors, je vais faire allusion à une émission que j'ai faite il y a quelques mois de ça, ici, dans cette émission même, avec une association qui s'appelle La Parole Libérée, et qui est une association qui s'est portée civile donc dans l'affaire dans les cas de pédophilie qui ont eu lieu dans le diocèse de Lyon dans les années 80-90, dans lequel Barbarin a été mis en cause dans le sens où il a pris connaissance des dossiers, etc. Et il a laissé le prêtre Brennan en question, je crois que c'est son nom, en fonction, même une promotion, alors qu'il savait, d'après les dossiers, que cette personne avait abusé sexuellement de jeunes hommes, de jeunes garçons de entre 11 et 16, 18 ans, dans le cadre du scoutisme. Bref. La parole libérée, la personne qui est venue, c'est le coprésident, n'avait absolument aucune... haine vis-à-vis de l'Église. Il ne comprenait pas, c'est cet obscurantisme, en quelque part, cette façon de condamner d'un côté et puis de mettre la couverture de l'autre sur des faits qui se déroulent dans l'Église, qui se déroulent depuis longtemps, sans parler seulement de la pédophilie, qui ne concerne pas que l'Église d'ailleurs, malheureusement, mais on sait, et parfois, certains même font allusion, qu'au sein même de l'Église, dans la prêtrise, il y aurait beaucoup d'homosexuels. Alors, que l'Église, ne révélerait pas, hein, ce serait une sorte de secret, une chape de plomb, mais avec, par exemple, une personne qui n'a pas envie de fonder une famille pour X ou X raisons, parce que peut-être elle a justement des sentiments qui le poussent vers des personnes de son même sexe, c'est une facilité finalement, elle n'a pas à se justifier en devenant prêtre, elle accepte le célibat, et même Barbarin a dit, même lui a dit, il faut reconnaître tout ce que les homosexuels ont apporté à l'Église. C'est un peu énigmatique ce qu'il a voulu dire. Mais est-ce que c'est reconnaître implicitement que quand même dans l'Église, il y a des homosexuels, déjà et depuis des siècles ?
Certainement. Enfin, je ne peux pas vous dire le pourcentage de prêtres homosexuels. Difficile. Mais il y a effectivement des prêtres homosexuels, oui. Des prêtres et des religieux qui sont homosexuels. Mais je dirais que c'est partie du pourcentage dans la société. Peut-être qu'il y en a un peu plus.
Pour les raisons évidentes, justement, de pouvoir se cacher enfin plus facilement au sein de cette institution, finalement, par rapport au célibat, tout simplement.
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même...
On n'a pas cette pression de fonder une famille, oui. Voilà, par exemple.
Mais il y a quelques temps, il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans, peut-être même plus, bon, être prêtre, c'était... il y avait une forme de prestige. Aujourd'hui, être prêtre, c'est pas facile. Je pense que, voilà, on n'a pas le même regard sur le prêtre. Aujourd'hui, le prêtre, il est des fois soumis à rude épreuve. Hein. Mais, effectivement, mais moi, j'aime bien, c'est Timothy Radcliffe, qui est un dominicain, qui disait « La personne qui se prépare à la prêtrise, qu'elle soit de sensibilité hétérosexuelle ou homosexuelle, elle est appelée à vivre, en fin de compte, que le devant de l'Église. » C'est-à-dire... pauvreté, obéissance et chasteté. Alors pas chasteté, parce que la chasteté, en fin de compte, c'est pas la continence, mais elle est appelée à vivre. Moi je pense qu'il y a peut-être des personnes qui au fond ont une tendance homosexuelle, mais peut-être qu'ils vivent leur prêtrise, qu'ils la vivent, je dirais normalement. Enfin, j'aime pas ce terme, enfin qu'ils la vivent.
Bon, il y a aussi tous ceux qui, au sein de l'Église, n'ont pas respecté toujours tous les enseignements, ne le respectent pas. Parfois, encore une fois, on ne va pas remonter à la nuit des temps, mais il y a eu des prélats très riches, ils ne vivaient pas dans la pauvreté. L'Église présente quand même un aspect assez fastueux, l'Église catholique surtout, oui. Beaucoup moins austère que d'autres, comme le protestantisme, qui a voulu revenir à quelque chose de plus originel, en fait, christianisme originel. On a quand même des églises, par exemple, qui sont très richement décorées, des palais épiscopaux à Rome, par exemple, qui sont fastueux. On n'imagine pas qu'il y a des prélats, des hommes d'Église, qui ne vivaient pas selon le précepte de pauvreté.
Oui, mais on disait des princes de l'Église. Mais en même temps...
Il y en a eu d'autres qui vivaient ça, qui ont vécu en moine, oui. Vraiment...
Mais en même temps, dans l'art, je crois que jusqu'au XVIIe siècle, les commanditaires étaient des hommes d'Église.
Hein. Oui, beaucoup. Oui.
En fin de compte, on nous a quand même laissé des belles œuvres. Il faut regarder aussi le côté positif. 70% des musées italiens, même en France, il y a énormément d'œuvres, oui, de belles œuvres qui ont été effectivement commandées par, à l'époque, c'était des gens... Bon, il y avait quand même beaucoup d'artistes.
C'était des mécènes. C'était des mécènes. Ils avaient de l'argent, justement, et ils commandaient des œuvres. Voilà, c'est le bon côté positif de religion en général.
Mais en même temps.
C'est des choses magnifiques aussi, quelles que soient les religions.
Oui, en même temps, c'est vrai, vous avez raison de dire qu'on doit vivre une forme de pauvreté. Mais la pauvreté, bon, c'est pas uniquement matériel. Voilà. Mais effectivement, à l'époque, voilà, on devenait évêque, cardinal, à la limite. Je dirais même sans croire en Dieu. Hein. C'est un peu ce qu'on trouve aujourd'hui chez les identitaires. Hein.
Oui, oui.
Ceux qui sont chez Marine Le Pen, les identitaires, en fin de compte, défendent l'Église comme institution, mais pas du tout le message évangélique, hein, qui est d'aimer son prochain, d'aimer l'autre, d'aimer l'homme différent, d'aimer le migrant, enfin voilà.
D'accord. Alors, on a un peu parlé des protestants, là, parce qu'il y a quelques temps, on a reçu aussi David et Jonathan, eux, qui se présentent comme une association œcuménique, hein, chrétienne, mais qui ont aussi un dialogue, je dirais, avec les protestants. Est-ce que vous, d'une part, est-ce que vous pensez que l'Église protestante, on ne peut pas parler d'Église protestante, hein, mais les représentants des protestants en France sont-ils encore plus, seraient-ils plus ouverts que l'institution catholique qui est vue comme un bloc, c'est vrai, monolithique, pyramidal? Est-ce que vous pensez déjà que les protestants sont plus ouverts dans ce domaine-là?
Alors, parmi les liens, enfin, parmi les
protestants... Je parle de la France,
oui,
parce qu'on connaît les évangéliques aux États-Unis.
Bon. Tout à fait. Bon, c'est vrai que les pasteurs, hommes ou femmes que je connais, sont assez ouverts. Mais ce n'est pas du tout le même type de structure. Hein.
Ouais,
bon, nous, on a une structure quand même, on a un pape. Bon, c'est assez centralisé au niveau de Rome. C'est vrai que les protestants, d'une part, il y a beaucoup de sensibilité. Hein, et je dirais chaque pasteur est un peu le maître chez lui. Voilà, tandis que nous, on a 10 castères à Rome qui, dirigent un peu. Voilà. Et en même temps, et d'ailleurs c'est les protestants qui le disent, hein, on a cette liberté, mais en même temps c'est bien d'avoir aussi une politique cohérente. Voilà, parce que l'Église, elle n'est pas uniquement en Europe, elle est aussi en Afrique, elle est aussi en Asie, elle est aussi en Amérique latine, en Océanie, avec des différences culturelles.
Fait qu'il y ait un représentant aussi, une parole de l'Église catholique, c'est effectivement, il y a le pour et le contre, effectivement.
Oui.
Il y a le côté parfois dogmatique. Mais j'en discutais juste avec des personnes musulmanes qui me disaient justement, nous, ce qui manque à la religion musulmane, c'est d'avoir un représentant qui définisse un dogme qui concerne tout le monde.
Bien sûr.
Et qui porte une parole.
Oui.
Voilà. Et les protestants, ils ont un peu ce problème, finalement, entre guillemets.
Mais c'est vrai qu'il y a une parole, après une parole qui s'inculture en fonction des continents, en fonction des pays. C'est pour ça que le pape... il y a eu des rencontres qui sont faites à Rome. Et alors on demandait au pape, enfin aux évêques, de se positionner sur le divorce, sur le mariage homosexuel, etc. Bon, c'est vrai que dans nos sociétés, les sociétés occidentales, enfin je parle de l'Europe et d'Amérique du Nord... Bon, c'est des choses qui peuvent évoluer. Il y a des évêques qui se positionnent. Mais pour l'Afrique, pour l'Asie, pour le Moyen-Orient, voilà, les gens n'entendent pas. Vous parliez tout à l'heure d'un jeune béninois qui vit très très mal son homosexualité. Mais
Précise hors antenne, on avait parlé hors antenne.
Oui, on n'en a pas hors antenne. Oui. Mais moi je connais assez bien l'Afrique. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, être homosexuel en Afrique, c'est difficile. Et c'est pas uniquement une position de l'Église, hein. C'est-à-dire que c'est des positions du gouvernement qui condamnent l'homosexualité, chrétien ou pas. Hein. Donc pour vous dire que on ne peut pas avoir une parole, voilà, faut beaucoup de diplomatie. Voilà, quand on travaille au niveau, quand on a des responsabilités, comme peut l'avoir le pape. Enfin voilà, faut qu'il compose déjà avec des tendances au sein de la curie romaine et aussi au niveau international. C'est-à-dire que une personne africaine ne va pas réagir de la même façon qu'un Américain, qu'un Latino ou qu'un Asiatique. Quoi.
Donc devenir un en Christ, vous l'avez précisé, c'est avant tout, on va dire, catholique. C'est pour ça que j'ai pas évoqué les protestants, pour savoir si vous aviez apparemment oui, puisque vous avez des contacts avec des pasteurs protestants. Donc des personnes protestantes pourraient éventuellement s'adresser
sûr,
à devenir un en Christ.
Sûr, oui.
C'est vrai que l'intitulé « Devenir un en Christ », ça concerne tous les chrétiens.
Ben voilà, nous, ce qui nous unit, c'est le Christ. Voilà, c'est vraiment la parole, c'est l'évangile. Voilà. Après, bon, et je dis, les gens n'ont pas de problème avec, je dirais, les évangiles, avec la parole. Par contre, c'est avec l'institution. Mais on peut, bien sûr, on accueille des personnes... on accueille même des personnes qui sont en recherche. Mmh. Voilà le tout. Déjà, nos rencontres... Alors, c'est vrai qu'on a un temps de partage de la parole. Après, on a un temps de partage sur ce qu'on vit, voilà, en tant que personne homosexuelle, dans la société. Ensuite, on a aussi un temps de convivialité.
Quand vous recevez des familles, des parents qui sont donc confrontés à l'homosexualité de leurs proches, de leurs enfants, comment vous adressez à eux ? Ça, vous allez me dire, ça dépend des situations. Des gens qui seraient désemparés, par exemple, par rapport à leur foi, oui. Comment vous vous adressez à eux ? Comment vous procédez ?
Alors, comment on procède ? Déjà, le plus important, c'est d'écouter la personne. D'écouter son mal-être vis-à-vis d'eux, hein, en tant que parents, leur mal-être vis-à-vis d'un enfant homosexuel. Voilà, vraiment, la première dimension, c'est l'écoute. Et après, c'est d'entreprendre avec... déjà, d'amener ces personnes à reconnaître que leur enfant est leur enfant. Voilà, et qu'ils soient homosexuels ou pas, voilà, quel est le lien qu'ils ont avec leur enfant, et d'aimer leur enfant comme il est. Et je pense que là, c'est quelque chose qui demande du temps. Hein. Mais j'ai jamais vu des parents rejeter violemment leur enfant. Et ça existe, hein, puisqu'il y a une association qui s'occupe des enfants qui sont rejetés. Voilà. Ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le père, quand c'est un garçon, ou la mère, hein, voilà, quel modèle j'ai été pour mon fils, ou la mère pour sa fille, voilà. Est-ce que j'étais un bon père pour que... Bon, il y a toujours...
Mais ça, c'est un questionnement que toutes les familles peuvent avoir, sans, indépendamment de leur foi, d'ailleurs.
Bien sûr.
Les familles athées, laïques, complètement athées...
Bien sûr.
Alors, là, il y a le truc de la foi en plus, quoi. C'est voilà. Comment moi, on m'a appris que l'homosexualité, c'est pas bien, quoi, depuis que...
Alors, la foi, ça vient en dernier. Voilà, on va pas aborder. C'est le dire aussi à leur environnement. Et après, si ses parents sont chrétiens engagés, catholiques engagés dans la paroisse, c'est effectivement... surtout, les parents ont été gênés par le discours de l'Église contre le mariage pour tous.
Oui,
ou de certains prêtres qui condamnent l'homosexualité. Voilà, c'est de les amener à réfléchir et à se dire, voilà, votre foi, elle est centrée sur le Christ. Voilà. Elle n'est pas sur un discours et que l'accueil de toute personne. De toute façon, il n'y a pas, on dit toujours, il n'y a pas de voie sans issue avec le Christ. Voilà, donc il y a toujours des possibilités de dialogue, il y a toujours des possibilités de. Et en fin de compte, c'est de les réconcilier avec eux-mêmes. Voilà. De déculpabiliser aussi le père ou la mère par rapport au fait que leur enfant soit homosexuel. Et aussi, à un moment, de pouvoir. Mais ça demande un certain temps, de pouvoir quand même en parler à leur famille et d'en parler aussi aux paroissiens ou aux gens qu'ils apprécient. Parce que le fait de pouvoir en parler, de dire ce qu'on a sur le ventre ou sur le cœur, de pouvoir en parler à d'autres, ça libère quand même.
Ça, c'est certain. Et puis, ils sont à la recherche aussi d'une réponse, à quelque part, à leurs angoisses, à leur mal-être.
Oui, oui.
Et le partage aussi des expériences des autres, etc.
Alors voilà. Alors, ce groupe parent, avant, on avait des réunions communes. Maintenant, il y a un groupe parent sur Lyon et un groupe parent qui se retrouve entre eux. Et le fait de témoigner, d'échanger, ça leur fait énormément de bien.
J'espère que vous avez amené les coordonnées, les téléphones et compagnie, hein, parce qu'on va donner ça, non ?
Non, je vous donnerai mon numéro de portable.
Ah oui, on ne va pas le dire à l'antenne, peut-être.
Je vous le renverrai. Je vous enverrai toutes les coordonnées.
Hein, que je puisse mettre des coordonnées pour le public, quoi.
Ouais. Hein,
soit par les réseaux sociaux, soit les téléphones, etc., les contacts, quoi. Mmh.
Hein. Et je dirais, pour terminer par rapport aux parents, je pense que les parents, quand ils accueillent leur enfant avec bienveillance et sans compassion, hein, parce qu'il y a aussi une dimension, c'est mon enfant homosexuel, est-ce qu'il sera heureux ? Voilà. Et c'est de pouvoir dire oui, il pourra être heureux. Bon, il pourra vivre une vie de couple, mais pour avoir une vie riche. Eh bien, le fait que les parents le comprennent, ce sont des gens qui vont parler autrement de l'homosexualité. Et je pense que là aussi, ils ont une place importante dans l'image qu'on peut donner sur toute la mouvance homosexuelle.
Alors, au fond, ce que vous me dites, ce que vous proposez, c'est très bien, c'est très très bien, mais c'est des questionnements que tous les parents ont, indépendamment encore de la foi. Alors, est-ce que justement le fait d'être croyant, ça rajoute pas un handicap supplémentaire, justement, à cette ouverture, à cette prise de conscience de l'homosexualité, de découverte de l'homosexualité, de voir ça d'un autre œil, à cause toujours de cette chape de morale, quelque part?
Oui, oui. Hein?
On sait par exemple qu'il y a des familles, je sais pas si vous avez des exemples, et puis il y a des familles qui rejettent leur enfant, ça c'est oui. sûr, qu'elles soient croyantes ou pas, hein, ça, indépendamment de la foi. Mais est-ce que vous justement, vous avez eu connaissance de familles qui, pour des principes religieux aussi, ont rejeté leurs enfants en disant ce n'est pas conforme avec ce qu'on entend beaucoup de la part notamment des musulmans? En disant, nous, on nous rejette parce que c'est la religion qui est très importante chez nous et on est rejeté par rapport à la parole qu'il y a dans la religion qui nous condamne. Et nos parents nous condamnent par rapport à la religion. Parfois, ils nous éjectent littéralement de la famille, on n'existe plus. Est-ce que ça a existé très probablement autrefois, mais est-ce que encore maintenant, on a des exemples de familles qui seraient des familles donc très traditionnalistes, qui rejettent leurs enfants sur un principe déjà de religion?
Oui. Alors, un rejet total, je ne l'ai pas vu. Hein. Par contre, il y a toujours cette difficulté par rapport à l'institution. Mais nous, on a fait intervenir une pasteur protestante, qui est une bibliste reconnue, justement sur ce que dit la Bible sur l'homosexualité, Ancien et Nouveau Testament. Et en fin de compte, elle disait qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, les parents, ça les a libérés. Voilà, ça les a libérés. Mais c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de parents suite à toutes ces manifestations où on appelait à manifester contre le mariage pour tous. Et là, les parents ont beaucoup ont souffert.
Oui.
Donc, et c'est là où on sentait qu'ils avaient quand même un désir d'entendre quelque chose de différent.
Oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a eu des propos qui ont été tenus, qui étaient extrêmement blessants.
Bien sûr.
Pour les personnes homosexuelles aussi.
Et pour les parents, bien sûr, et pour des proches.
Bien sûr. Alors moi j'ai noté quand même que vous avez un site internet, donc je donnerai je donnerai le nom du site avant de nous quitter. Alors moi je pense que quand on a la foi, enfin je sais pas ce que vous en pensez. On entend dire parfois aussi, moi j'ai perdu la foi parce que je suis homo et je sais que c'est incompatible. Est-ce que vous avez déjà entendu ça?
Bien sûr.
Et là vous dites homme de peu de foi.
Oui, mais voilà, mais bien sûr que
homme ou femme d'ailleurs.
Homme ou femme, oui.
De peu de foi.
Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que...
c'est incompatible.
Parce que l'Église, quelque part, ils vivent ça comme une condamnation. Et justement, nous, c'est ce qu'on essaye de changer, justement, que Dieu ne nous condamne pas.
Un homosexuel, une personne, femme ou homme homosexuel, qui a ancré en elle la croyance, la foi, peut aussi avoir des stratégies. On en évoquait une. C'est de dire, finalement, ce qui compte, c'est la parole du Christ. Et la parole du Christ n'a jamais... la Bible, l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. C'est des lois, finalement, qui ont été dictées pour des peuples qui étaient en errance à l'époque. Et puis après, qui ont fondé des sociétés qui étaient en opposition avec les sociétés qui les entouraient la plupart du temps. Après, il y a eu Saint Paul. Mais était-il vraiment inspiré par l'Esprit du Christ quand il a dit du mal des homosexuels? Mais si on regarde les quatre évangiles, il n'y a rien. Ça peut être une stratégie.
Oui. Après, la personne, qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle, elle est appelée aux mêmes exigences. Hein. Quand on dit tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, tout ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, voilà, ça c'est un commandement qui est valable pour tout le monde. Voilà, moi je dirais c'est aussi quelque chose qui touche tout le monde. On a les mêmes exigences. Alors c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur un discours de l'Église institutionnel. Mais quand on rencontre des personnes et quand on rencontre des prêtres ou des religieux, moi je peux vous dire sur la place de Lyon, j'en connais beaucoup, c'est des gens qui sont très très accueillants et qui ne jureront pas et qui ne seront pas dans la compassion. Voilà, et qui diront écoute, ce que tu as à vivre, vis-le. Essaye de le vivre pleinement homme ou pleinement femme, mais en même temps dans le respect de la personne.
Donc on peut penser qu'il peut y avoir un accueil favorable aux personnes homosexuelles dans l'Église à la
Moi, je pense que de plus en plus, oui. Et je peux vous dire, c'est vrai qu'à... Bon, je reprends encore l'exemple de Saint Bonaventure. Les personnes sont accueillies.
D'accord. Voilà. Faut le savoir. Oui. Saint-Bonaventure. Alors, ça se passe comment, Saint-Bonaventure ?
Alors, nous, on a une réunion une fois par mois.
Oui.
Donc, on se retrouve dans les locaux qui nous sont prêtés par Saint-Bonaventure.
Oui.
En général, on fait ça de 7h à 10h30, 11h. On commence toujours par un partage, soit par une célébration eucharistique, dans certains cas, après un partage à partir d'un livret. Voilà, mais là, c'est davantage sur ce qu'on vit en tant que personne homosexuelle. Et ça se termine toujours par un temps convivial. Il faut les trois. Les trois, ça donne un équilibre, parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec un point que l'autre. Mais voilà, mais c'est vraiment dans l'écoute et dans le respect de la personne.
Alors, donc, je précise qu'il existe un site, ça s'appelle donc devenir1enchrist.net, qu'on peut déjà consulter. Je remettrai l'adresse sur les réseaux sociaux concernant l'émission, Facebook et Tutti Quanti. Puis j'essaierai de transmettre aussi les contacts pour les familles, les personnes intéressées qui nous
bien
écoutent.
Bien sûr. Vous précisez, sur le site, d'ailleurs, vous pouvez consulter le site
national. Oui,
très
bien fait.
Et ensuite, vous avez.
Il y a les délégations régionales.
Il y a les délégations régionales et il ne faut pas hésiter à.
Dans toute la France, grandes villes, je suppose.
Dans les grandes villes, voilà, oui, dans les grandes villes. Oui.
D'accord.
C'est vrai qu'en campagne, dans les petites villes, malheureusement.
Oui, évidemment. Donc, je mettrai tous les renseignements voulus sur les réseaux sociaux. Avant de nous saluer, avant de nous quitter complètement, je voulais simplement signaler un petit événement, un grand événement, on va dire. C'est Jean-Luc Romero qui va revenir à Lyon. On l'a déjà eu à l'émission, enfin pas en direct, mais au téléphone, on l'a interviewé pour présenter, pour une rencontre, je vais y arriver, une rencontre-conférence, c'est au centre LGBTI de Lyon, donc rue des Capucins à Lyon, une rencontre-conférence sur le thème de son dernier ouvrage, ça s'appelle Survivant, c'est le deuxième ouvrage autobiographique qu'il écrit concernant donc ce qu'il appelle son sida. Et Jean-Luc Romero, qui est maire adjoint du 12e arrondissement de Paris, qui est président de l'association des élus contre le sida, et qui sera aussi tout à fait dans un autre cadre le lendemain au Mercure, à l'hôtel Mercure à Pardieu, puisqu'il est président aussi de l'association ADMD, qui est donc qui défend encore un sujet d'ailleurs qui est très discuté dans l'Église, et même très mal vu, je dirais, c'est l'euthanasie. Bon, c'est un vilain mot, mais c'est aider les gens qui ont envie de mourir, de le faire dignement, etc. Ça aussi, c'est un autre sujet dont l'Église a du mal à...
Voilà, mais c'est vrai que quand on dit mourir dans la dignité,
c'est plus joli que euthanasie, ça c'est sûr, parce qu'on a l'impression qu'on amène son chien
vétérinaire. Je pense quand même que la société s'enrichit de débats, mais l'Église évoluera. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'acharnement thérapeutique, l'Église évolue.
Oui.
Voilà, mais voilà, s'accompagner la vie jusqu'à
difficile.
La fin. Quoi.
Savoir que l'Église, pendant des siècles, a refusé d'enterrer, par exemple, chrétiennement, les personnes qui se suicidaient, ce qui est vrai. Et je peux dire, il y a un prêtre un jour, j'ai un oncle qui est mort comme ça, malheureusement. Le prêtre a dit, de toute façon, moi, je célèbre la messe, je ne suis pas là pour juger. Il a dit exactement la même chose.
Voilà, donc heureusement, on trouve de bonnes personnes, des personnes
donc, compréhensives. Tout n'est pas fermé, même si parfois l'institution peut paraître un peu rigide, il y a effectivement de bonnes personnes. Et apparemment, vous les connaissez, c'est très bien. Et pour ceux qui veulent le connaître, il faut vous contacter. Donc, c'est tout, mon petit Bernard. On va être obligé de se quitter là. Donc, merci.
Non, c'est moi qui vous remercie.
D'être venu. Donc, Nuno Fernandes, je vais y arriver, portugais.
Oui.
Mais bon, je fais mon malin, mais je ne parle pas portugais. Donc, de l'association Devenir en Christ. Je mettrai tous les renseignements sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être venu.
Eh bien, écoutez, merci encore de m'avoir invité à votre émission.
Et j'espère que les auditeurs en auront appris encore plus sur la foi, l'homosexualité et l'association Devenir un Christ. On va terminer, mais on va pas l'entendre en entier, la chanson. Qu'est-ce que tu veux nous mettre, Bernard ? On met Adam et Yves de Zazie ? Ouais, ça te va ? D'accord. On avait prévu plusieurs titres, et puis finalement, on n'a pas eu le temps de les passer.
Voilà, oui. C'est vrai qu'une heure, ça passe vite.
C'était dense.
C'est l'émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel. Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.